Alors c'est un message qui est court, parce que j'ai pas envie de faire long, mais j'espère qu'il va être intense. En tout cas, il est intense pour moi. J'aimerais vous parler de quelque chose que ça a toujours été dans le cœur de Dieu. Habiter avec l'homme. On voit déjà, je vais commencer par le premier verset, Genèse chapitre 2, verset 15. L'Éternel plaça l'homme et la femme dans le jardin. Il les gardait et les cultivait. J'avais partagé il y a quelques mois en arrière. Le mot garder, ça nous parle de communion, relation. Et le mot cultiver, c'est de croître une relation. On peut pas juste se contenter d'une relation terre à terre. Comment tu vas? Ça va, ça va. Et ta sœur et ton frère? Ça va, ça va. Mais tu connais même pas de ce qui se passe. Donc Dieu est un Dieu qui est relationnel, a toujours voulu avoir une relation avec l'être humain. Même après le péché, en Genèse chapitre 3, juste un chapitre plus loin, le verset 10, Dieu vient et dit, où es-tu? Oui, je sais ce que tu as fait. J'ai déjà prévu la solution. Apocalypse chapitre 1, Christ a été immolé bien avant la fondation du monde. Donc il y a toute une histoire qui passe. Voilà, le péché et la séparation avec Dieu. On voit ça dans Romains chapitre 3. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le cœur de Dieu n'a pas changé. Le cœur de Dieu veut toujours avoir une relation avec sa créature, avec nous. Nous avons un très bon exemple avec le peuple d'Israël. On a parlé d'Israël. Oui, ils sont comme nous. Rebelles, désobéissants. Le Seigneur dit ça, moi je fais ça, etc., etc. Dieu a permis qu'ils aillent en Égypte pour, au départ, pour sauver. C'est une belle bénédiction. Ils sont restés sous l'esclavage. On connaît le premier chapitre d'Exode. Ensuite, ils sortent d'Égypte. Ils ont rien. Littéralement. Tu vois, tout un peuple qui est nombreux. Ok, il y a Dieu qui est là. Mais ils ont rien à quoi s'accrocher. Ils ont rien. Ils savent pas grand chose de Dieu. Il y a peut-être quelques-uns qui sont croyants. Comme Moïse, peut-être comme Aaron, comme leur sœur. Et peut-être certainement d'autres. Parce que n'oublions pas, quand ils sont sortis d'Égypte, ils étaient environ 1 million de personnes. Ça fait beaucoup. Et imaginez, mettez-vous un peu à la place de Moïse. J'ai dit, waouh Seigneur, je suis, on va dire, le guide 1 million de personnes. Et on fait quoi? Mais Dieu, son cœur n'a pas changé, comme je disais tout à l'heure. Il veut habiter avec l'être humain. Et pour ça, donc dans le désir, on voit ça à partir de Exode chapitre 20, 21, 22 jusqu'à la fin. Il a demandé de faire certaines choses à Moïse, ce qu'on appelle l'autel des sacrifices, l'autel des parfums, le chandelier, etc. Mais également une tente. Sur certaines traductions, utilisent ce mot-là, une tente d'assignation ou une tente de rencontre. C'est là où Dieu pouvait rencontrer l'être humain. Christian va nous afficher une image de tabernacle que j'aimerais juste un peu commenter sans aller dans les détails. Premièrement, nous avons ce qu'on appelle le premier voile. Il fait à peu près 2,50 m de haut sur à peu près 20 mètres de large. C'est énorme, le premier voile. Donc, il n'y a pas dans cette image, mais Dieu a toujours voulu habiter au milieu de son peuple. Donc il demande de placer cette tente, pas à l'extérieur de camp, mais au milieu de camp. Et tout autour de cette tente de la rencontre ou d'assignation, c'est pareil, il y avait ce qu'on appelle les tribus d'Israël qui étaient tout autour. Pourquoi? Premièrement, pour que tous puissent voir, ah tiens, quelque chose se passe là. Deuxièmement, pour qu'il n'y ait pas d'excuses, on disait, oh là là, je dois traverser toutes les tribus avant d'accéder là-bas. Non, non, Dieu veut habiter au milieu de son peuple. Ensuite, toujours pour commenter un peu, donc on a le premier, j'ai rien de grand, mais c'est pas grave. Donc, tu rentres par cette porte, et nous avons le petit carré là, c'est ce qu'on appelle l'autel des sacrifices. Ça veut dire que les bonhommes là qui sont présentés, les sacrificateurs, c'est lui qui faisait ce qu'on appelle des sacrifices d'animaux. Ça veut dire que le pêcheur venait avec son animal, il mettait sa main sur lui en disant, Seigneur, là, j'ai complètement déconné. Seigneur, je te demande pardon. Et tous les péchés allaient sur cet animal-là. Donc le sacrificateur, il égorgeait la victime juste à gauche. Ouais, c'est juste à gauche de ce carré-là, donc de l'autel des sacrifices. Et ensuite, il montait par la fameuse rampe et il posait la victime ou l'animal qui était brûlé en fonction de sacrifice. Ensuite, on a ce qu'on appelle le rond. C'est ce qu'on appelle le bassin de purification. Ça veut dire que les sacrificateurs, après le sacrifice, ils se lavaient les mains, etc. Avant de récupérer un peu de sang de la victime et passer ce qu'on appelle le premier voile, là où on voit les petites colonnes. Donc il passait le premier voile, j'ai pas une photo malheureusement, et dans ce premier voile, nous avons ce qu'on appelle une table de pain de proposition, nous avons le chandelier d'or, et nous avons ce qu'on appelle le parfum. C'était une sorte de lampadaire avec un parfum de l'encens, voilà, de l'encens. Le parfum des, l'hôtel du parfum, ils appelaient ça comme ça. Ensuite, il y a encore un voile, où là nous avons donc ce qu'on appelle l'arche de l'Alliance. C'est un grand coffre, et dedans donc il y avait la loi, il y avait la manne, il y avait le bâton d'Aaron, etc. Donc, c'est surprenant. Mais pourquoi j'ai décidé de parler de ça? C'est que le premier contour, c'est ce que nous appelons le parvis, il ne nous sert pas à grand chose pour connaître Dieu. Parce que je suis persuadé, et on voit ça dans les deux nombres, que beaucoup d'Israélites voyaient. Ils savent qu'il y a quelque chose qui se passe. Peut-être qu'ils sentent l'odeur de la viande qui brûle. Mais c'est pas, ça leur donne pas un moyen ou la possibilité de s'approcher du trône de grâce. De s'approcher ce qu'on appelle le siège de miséricorde entre les deux chérubins sur l'arche. Donc, pour ça, ben, il fallait rentrer. Et c'est pas des portes comme dans le temple, qui a été fait sous la même image, presque. C'est un rideau. C'est-à-dire que pour le rideau, tu le lèves, tu t'abaisses pour pouvoir entrer. Ça marque aussi une forme d'humilité. On peut pas arriver devant Dieu et dire, ouvre la porte. Non, non, non. Je m'approche de Dieu avec un cœur humble. Seigneur, je m'approche devant toi. Mais il y a quelque chose de particulier, c'est que la première chose que quand les gens, ils arrivent donc dans le parvis, il voit l'autel de sacrifice. Tu vois, waouh, ok, c'est la première chose que tu vois. Et en plus, bon là, sur la photo, on voit déjà qu'il est bien imposant par rapport à la taille de parvis. Et ensuite, même si Israël, les Israélites pouvaient accéder dans ce parvis, ils pouvaient aussi s'approcher, pas eux, mais les sacrificateurs dans la première partie, c'est ce qu'on appelle le lieu saint, là où il y avait le chandelier, les points de proposition, etc. Et là, il y avait donc derrière, tout au fond de la tente, il y a une autre petite partie, c'est le lieu très saint. Et là, je me dis, Horacio, tu m'as un peu largué avec ton explication. On croit que c'est quelque chose d'édifiant pour nous. Vous allez comprendre. En hébreu, la première porte ou le premier voile... Ah, voilà, merci Robert. Ah, ça c'est cool. Alors, voilà, c'est pas un écran, donc il faut... C'est un écran. Cette partie-là, là et derrière, en français, ça donnait porte, voile. Mais vous allez comprendre où est-ce que je veux en venir. En hébreu, cette partie-là, ça s'appelle le chemin. C'est surprenant. Vous allez voir la deuxième. La deuxième partie, donc le voile, ça s'appelle la vérité. Et la troisième partie, ça s'appelle la vie. Ça vous fait pas penser à quelque chose? Je suis le chemin, la vie, c'est pas grave, et la vérité. Et regardez, nul ne vient au Père ou dans le lieu saint que par moi. Jésus dit même, je suis, pour bien insister, hein, je suis la porte. Mais vous voyez, en français, ça donnait juste la première, donc c'est la porte, deuxième voile, et voilà. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire que, voilà, Christ, quand il dit les choses, c'est pas un hasard. Il est vraiment, il sait qui il est, premièrement, et il dit pas ça à des gens qui ne connaissent pas un peu. Ils connaissent leur histoire, parce que le temple que Salomon a fait, c'est de la même nature. T'as la première porte, t'as le voile, et encore t'as un voile. C'est le même principe. Mais je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. C'est fabuleux, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent se balader tout autour de ce tabernacle sans forcément emprunter le chemin. Peut-être qu'il y a des gens qui ne réalisent pas encore. Ils disent, tiens, et pourquoi je ne passerai pas de ces côtés-là? Ben, c'est impossible. C'est impossible tout simplement parce que déjà, premièrement, ce sont des toiles qui font à peu près 2 mètres 50 à peu près de l'argent et ils touchaient quasiment le sol. Et en fait, pour pouvoir se glisser, soit tu as un chien pour faire un trou et tu passes en dessous, mais ça fait un peu bizarre, surtout pour Israël, ben, soit tu es vraiment obligé de passer par la porte. Par exemple, Anne, on voit ça donc dans 1 Samuel chapitre 2, quand elle priait, elle est même pas rentrée parce qu'elle se croyait indigne. Elle était juste devant la première porte et elle priait. Le sacrificateur Élie, qui se baladait certainement donc dans le parvis pour faire, on va dire, son job, il la voit de loin. Parce que comme je disais tout à l'heure, pour entrer par la première, il fallait soulever le voile et entrer comme ça. N'est-ce pas? Donc Anne, elle était là en disant, Seigneur, écoute ma prière. Devant cette porte-là, elle n'était pas au fond. Mais il y a quelque chose, une belle image que j'ai eue à cœur. Vous savez à quoi ça me fait tous ces piliers-là et toutes ces toiles? L'unité de l'Église. C'est à l'amour que nous avons les uns pour les autres, à cette affection, unité ensemble, que le monde verra que je suis vivant. Et c'est joli ça, parce que ça nous montre plusieurs choses, c'est que ça peut être le contour du parvis. L'Église, beaucoup de gens peuvent voir l'Église de loin et dire, ouais bon, comme Robert disait tout à l'heure, ils sont un peu bizarres. Ils sont un peu, chez les jeunes, un peu chelous. C'est vrai, mais l'Église, s'il y a cette unité, s'il y a ce corps, s'il y a ce temple, s'il y a ce montage, il reflète la porte qui est Jésus-Christ. C'est fabuleux, n'est-ce pas? Et même si l'Église reflète la porte qui est Jésus-Christ, les gens, quand ils rentrent la première fois dans l'Église, comme je disais tout à l'heure, la première chose que tu vois, c'est l'autel des sacrifices. Waouh! Quelqu'un qui rentre dans l'église, la première connexion qu'il doit y être, déjà c'est nous, parce qu'il nous voit de l'extérieur. Ensuite, quand il rentre par la porte, c'est le sacrifice de Christ. La vérité sur le sacrifice de Christ, que c'était une torture, que nous étions pécheurs, nous avons été rachetés, il n'y a plus de condamnation, etc. Et une fois que la personne réalise qu'en fait le sacrifice est déjà payé, il peut s'approcher dans le lieu saint où nous avons ce qu'on appelle les pains de proposition, comme je disais tout à l'heure. Jésus dit, je suis le pain de vie. Où nous avons le chandelier qui donne la lumière. Je suis la lumière du monde. Et qu'est-ce qui reste? Quelque chose que Jésus ne dit pas. Il dit pas, je suis le parfum de l'encens ou le parfum de l'autel. Il dit tout simplement, je suis le pain, la lumière. Mais c'est quoi ce parfum odorifiant? C'est quoi ce autel de parfum? Apocalypse, ça nous parle que c'est les prières des saints. Mais encore plus que ça, lorsque Jésus est mort, la séparation entre le lieu saint et très saint est ouverte. C'est-à-dire que, par le sang de Christ, Hébreux chapitre 14, verset 6, approchez-vous du trône de grâce avec assurance. Jean 16, 9, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. En fait, toute la Bible nous encourage à venir dans le lieu très saint. Où? Là où il y a la présence de Dieu. Et dans la prière sacerdotale de Jésus dans Jean chapitre 17, je veux que là où je sois, eux, ils puissent être avec moi. La relation, le cœur de Père, c'est d'être ensemble, de demeurer ensemble. D'ailleurs, le mot tabernacle, ça veut dire Dieu habite au milieu des hommes. Et au ciel, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas se contenter de rester juste à l'extérieur de Paris. On va tabernacler avec Dieu. On va habiter avec Dieu. Pourquoi? Parce que le sacrifice a été accepté en Jésus-Christ, premièrement. Deuxièmement, puisque nous sommes purifiés, puisque nous sommes en Christ, des nouvelles créatures de Corinthiens 5, 17, bon, on peut s'approcher, nous avons le droit de venir dans la présence de Dieu. C'est un droit juridique. Ouais, quand Jésus écrit à la croix dans Jean 19:30, tout est accompli, tétélestai, c'est payé. J'ai pas besoin de venir à Dieu en disant, Seigneur, j'ai tout mon bagage derrière, j'ai tous ces péchés. N'oubliez pas, le mot péché, ça veut dire manquer la cible volontairement. Seigneur, j'ai manqué la cible volontairement. Oui, mais c'est déjà pardonné. Tu me parles de quoi? Et malheureusement, beaucoup, déjà un de nos croyants, de nos croyants, ils restent à l'extérieur de parvis. Ils savent que quelque chose se passe. Ils peuvent voir, ah, tiens, Dieu peut-être qu'il existe, Dieu qui n'existe pas. Et ils tentent par leurs propres moyens de trouver un autre chemin, une autre porte. Mais dans des choses beaucoup plus farfelues. Il y a aussi également des chrétiens qui, tu dis, c'est super. Ils se contentent de rester juste dans le parvis. Alors que Dieu attend. J'aimerais bien que tu viennes dans le lieu saint. J'aimerais bien qu'on a, comme pasteur de Charlotte, il dit toujours, let's have a talk together. Parlons ensemble. Dieu a toujours voulu parler avec l'homme. Jean chapitre 2:15, comme je disais tout ça. Dieu a toujours voulu avoir une relation. Tu ne peux pas avoir une relation avec quelqu'un si tu ne vas pas. Je sais pas, moi, je m'imagine chez Isabelle, elle nous invite à manger, n'hésite pas, hein. Et tout le monde, au lieu d'aller chez elle, il dit, bon non, je vais rester à l'extérieur, j'attends qu'elle soit avec sa marmite, sa vaisselle, la totale. Ça n'a pas de sens. Dieu veut que nous soyons dans l'intimité avec lui. Mais là, aujourd'hui, si on veut dessiner un autre tabernacle, vous savez ce que ce sera? Au lieu d'avoir les trois portes, il n'y en aura que deux. La porte pour rentrer dans l'église et celle pour accéder dans la présence de Dieu. Mais voilà, Jésus, quand il dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie », c'est jamais un hasard. Tout est parfaitement, comment je peux dire ça? Pas cadré, mais tout est parfaitement organisé. La disposition même des éléments dans le tabernacle, tout ça. En fait, si vous regardez un peu de côté la vue d'oiseau, la vue de haut, ça faisait comme une croix. C'est-à-dire que tu rentrais par l'autel, ça faisait comme ça. Les pains de proposition, le chandelier, et tu avais le lieu saint. Donc ça faisait déjà une croix, juste par la disposition des éléments. Mais je vais aller encore plus loin. Vous allez voir combien le sacrifice de Christ était plus que nécessaire. Par exemple, toujours entre le carré et l'arche de l'alliance, il devait avoir, je sais pas comment il mesurait, ne me demandez pas parce que j'ai pas fait assez de recherches, exactement le même regard, pardon, je vais tourner comme ça, le même regard entre l'autel et l'arche de l'alliance. C'est-à-dire que dans tous les cas, pour voir déjà l'arche de l'alliance, tu étais obligé de voir le sacrifice. Ça veut dire que sans le sacrifice de Christ, on ne peut pas s'approcher. On ne peut pas arriver devant Dieu. Désolé Seigneur, le sacrifice de Christ, ok, c'est sympa, c'est historique, tout ça. Bon, je vais habiter où au ciel? Non, ça marche pas comme ça. Je suis le chemin, pas un des chemins. Je suis la vérité, pas des vérités, et je suis la vie. Et la vie, quand on parle de la vie, ça nous parle de la vie Zoé, une vie en abondance. Mais j'aime ça. Il n'y a plus d'écran, mais c'est pas grave. J'aime ça. Restons pas juste devant la porte en disant, waouh Seigneur, c'est sympa ce que tu as fait. Restons pas devant la croix en disant, ouais, bon, c'est un morceau de bois. Parfois, dans certaines églises, il est même encore crucifié. Restons pas comme ça. Allons-y dans cette vérité, mais surtout, vivons cette vie que Dieu nous propose. Souvent, on se contente de rien, de rester dans le parvis. Tu vois les animaux, tu vois l'hôtel, tu dis, oh, attention, c'est un peu chaud. Tu vois loup, tu vois, ouais. Mais va dans l'intimité, dans la présence de Dieu. Et c'est ça qui change de vie. C'est ça qui, je crois que c'est Ibrahim qui disait, David a été changé quand il était dans l'intimité avec son Dieu. Joseph, il a changé et son cœur a été changé quand il était dans l'intimité avec Dieu. Je lisais par rapport au roi Saül. C'était surprenant parce que c'est le premier roi d'Israël. Au départ, il a bien commencé avec Dieu. On voit ça dans 1 Samuel chapitre 4, 5, 6. Et en fait, il rencontre au bout d'un moment donc Samuel le roi, lui met de l'huile sur la tête, le roi. Et il va dire, tu vas rencontrer des prophètes. C'est quoi un prophète? C'est celui qui parle de la part de Dieu. C'est celui qui chante, qui glorifie Dieu, qui loue, etc. Et j'aime bien parce que Saül, il commence à prophétiser avec les prophètes. Et j'aime bien ce que c'est marqué. Et son cœur ne fut pas le même. C'est-à-dire que dans l'intimité avec Dieu, dans la présence de lieux très saints, notre cœur n'est pas pareil. On ne peut pas rester insensible. On a chanté tout à l'heure à la beauté, à la magnifiance de ce grand Dieu glorieux qui est venu en Jésus-Christ payer pour nous. Donc, autant qu'Église, nous sommes ce contour-là qui était magnifique. Là, les couleurs sont un peu pâles. Mais en fait, il y avait un peu de bleu, il y avait de cramoisi, il y avait de rouge, mais je rentre pas dans les détails, dans les couleurs, parce que ça, c'est un autre enseignement. L'Église, ça fait vraiment cette unité. Et l'Église, elle est là pour montrer le chemin, Jésus-Christ. Et non seulement ça nous fait cette unité, mais nous pouvons vivre, nous disons, nous faisons partie du temple, nous faisons partie de la maison de Dieu. Là où Dieu nous rencontre, et là où les autres peuvent rencontrer le Seigneur ici. Voilà le rôle que Dieu a pour nous. Donc, restons pas dans le parvis. Restons pas dans le lieu saint qui est magnifique. Allons-y dans le lieu très saint, dans la présence de notre Dieu. Là, on découvre qui il est, mais également qui nous sommes en Christ. C'est là qu'on découvre que nous sommes des enfants de Dieu. C'est là que nous découvrons que j'ai plus besoin d'avoir peur des circonstances de ce monde, des maladies, même de ce qui se passe, des choses bizarres dans l'église ou autre. Je n'ai pas besoin d'avoir peur des loups qui peuvent venir dans l'église. Pourquoi? Parce que je suis à la meilleure place dans la présence de celui qui peut tout. Je suis dans la présence de je suis. La présence de la Trinité. La présence, voilà. Puisque Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Qui peut se tenir devant nous? Goliath, tu te dresses devant moi, mais tu oublies un truc. Moi, je suis dans le lieu très saint, et c'est lui qui va combattre à ma place. Et puisque nous demeurons dans le lieu très saint, il ne nous reste qu'une seule chose. Seigneur, merci parce que tu es en contrôle sur toute chose. Oui, il y a peut-être une ange qui s'est déboîtée. Seigneur, dans le lieu très saint, je sais que ma vie sur cette terre est qu'une vapeur. Je sais qu'elle passe comme ça. Je sais que mon corps va mourir. Mon corps va se détruire. Mais mon âme demeurera ferme, se renouvelle de jour en jour. Parce que je demeure dans ta présence. Donc il y a beaucoup d'enseignements sur le tabernacle, mais je ne veux pas, parce que ce n'est pas un cours. Mais voilà, restons ensemble pour former ce parvis. Montrons ensemble le chemin qui est Jésus-Christ pour qu'il puisse accéder à la vérité et à la vie éternelle. On a un grand rôle, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que l'amour que nous avons, à cette affection que nous avons les uns les autres, le monde verra que Dieu est vivant. Amen. On peut dire ça? Demeurons ensemble. Mais voilà, quand j'ai découvert ça en hébreu, j'étais tellement scotché en disant, waouh Seigneur, en fait, tu parles pas juste pour parler. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est fabuleux. Waouh. Je vous ai dit, je vais pas faire long. Mais comme ce dessin-là, ça fait, comme ce tabernacle, ce parvis, ça fait une unité. Restons ensemble. Et c'est là qu'on voit l'important, c'est que s'il y a une étoile qui n'est pas là, ça fait pas un ensemble. Ça fait une séparation. Dieu veut. Et en plus, cette toile-là, sur ce dessin, il est un peu mal dessiné, on dirait que c'est une seule toile qui fait le contour. En réalité, c'est chaque toile qui est accrochée par des agrafes d'or, mais ça, c'est un autre enseignement. Et en fait, nous sommes accrochés les uns les autres. En disant, oui, l'ennemi peut venir nous attaquer. C'est comme les pingouins. Désolé pour l'image, hein. Quand ils ont froid, ils sont tous tellement collés que le vent ne passe même plus. Que la tempête ne vient même plus. Oui, la tempête, elle est là, dehors. Mais on est ensemble. Et ensemble, on peut demeurer ferme. Ensemble, on dit, waouh, Seigneur, c'est toi qui vas combattre. Non, on fait partie de ce plan. Mais c'est toi qui le fais. Seigneur, puisque c'est toi qui le fais, je ne peux que te dire merci. Merci Seigneur pour d'avoir voulu une relation avec nous et de le vouloir encore jusqu'à dans l'éternité et même dans l'éternité. Rappelez-vous juste une dernière chose, Jean chapitre 17, je veux que là où je suis, eux, ils soient avec moi. Vous imaginez le désir de notre Dieu, de notre Sauveur, là où il est au ciel, il veut que nous soyons avec lui. Quel cœur, quel amour pour nous, cet amour agapé aux sans conditions. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Seigneur, on te bénit. Merci Seigneur de nous avoir montré cet exemple, le chemin, la vérité et la vie. Et Seigneur, merci car tu as fait de nous une unité merveilleuse qui fait de nous un temple, qui fait de nous un tabernacle. Et Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants de t'appartenir, tellement reconnaissants de tout connaître, tellement reconnaissants, Seigneur notre Dieu, de faire partie de ton royaume, de faire partie de ta famille, de faire partie de ta maison. Seigneur, nous te bénissons, on te demande de nous conduire tout au long de cette semaine, que nous puissions réaliser que nous demeurons dans le lieu très saint, dans ta présence. Et nous te bénissons, Père. Amen.